Bonjour tout le monde, Benoît Racette en remplacement de Clotilde Seil et Kevin Breton sur Canal M. C'est l'heure d'aime l'été parce qu'il en reste encore un peu. Bonjour à vous, heureux de vous proposer cette édition du 23 août. Avant de passer aux nouvelles, on va se concentrer un peu sur ces prochaines rencontres qu'on va vivre ensemble à l'émission. On parle aujourd'hui avec le président de l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie, l'APHVE. On prend des nouvelles de la vieille capitale avec notre collègue Michel Bérard de l'émission Les Capés à la station CKIA de Québec. On comprend mieux l'aide médicale à mourir avec Jean Lambert. Et tout de suite, après ces nouvelles, Gérald Cousineau nous fait entendre davantage sur le livre « La dérive des jours » de Jonathan Godet. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Gentiment choisi par Sylvie Rivard et moi-même, Benoît Racette. J'espère que vous allez apprécier. Donc, d'abord, la FIC inquiète pour la population. C'est un texte de Anne Blondin, repérable sur Le Frontière et Le Citoyen, propriété de TC Média. Les représentants de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC en Abitibi-Témiscamingue, dénoncent le fait que la population n'ait pas été avisée de la décision de fermer 18 lits à Amos. Cela fait déjà plusieurs semaines que cela se prépare et aucune communication n'a été faite auprès de la population. C'est elle qui va vivre avec ces coupures. Pire encore, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi a procédé à la fermeture des lits pendant les vacances de la construction, a indiqué Carole Gendron, infirmière clinicienne en santé mentale et présidente intérimaire du FIC CISAT. Selon Mme Gendron, la décision de fermer 18 lits irait également à l'encontre d'un rapport qui a été réalisé sur la question. Ce rapport recommandait la fermeture de 12 lits au total, donc 6 à la mi-septembre, a-t-elle expliqué. Cela permettait au CISAT de mettre en place les services de soutien et de réévaluation des impacts de cette fermeture des lits. Au-delà de cela, la haute direction a choisi de procéder à la fermeture de 18 lits dès la mi-août sans nous consulter. Pas prêt. Bien que le CIS d'Abitibi-Témiscamingue ait indiqué être prêt à faire face à cette fermeture de lits et assurer que des services d'accompagnement à domicile ou dans des ressources intermédiaires aient été mis en place, la FIC est loin d'être du même avis. Lorsque nous avons demandé quelles étaient les ressources qui avaient été développées à l'externe pour recevoir les patients, la réponse a été très évasive. La direction ne savait pas encore ce qu'il ferait. Je trouve ça totalement irresponsable, surtout que la population n'est pas au courant, a affirmé Carole Gendron. Les lits qui ont été fermés servaient d'unités de débordement, principalement pour des personnes âgées. Nous sommes conscients qu'elles n'avaient pas d'affaires en pédiatrie, mais où allons-nous les placer pour qu'elles puissent recevoir des soins? Elles n'avaient pas plus de place dans les CHSLD, où vont-elles aller à présent avec les coupures? A souligné Mme Gendron. Coupure de poste. La présidente par intérim, de la FIC savait que des postes seraient coupés à l'hôpital d'Amos, mais elle était incapable de quantifier les abolitions de postes. Le CIS d'Abitibi-Témiscamingue ne nous a pas encore communiqué cette information parce qu'il est tout simplement incapable de nous le dire. Nous savons qu'au moins 9 infirmières auxiliaires vont perdre leur emploi et que des infirmières vont s'ajouter à ce nombre, a déploré Carole Gendron. Le CISAT réplique. Le CISAT entend bien maintenir la fermeture des lits à Amos. La possibilité d'espacer les fermetures de lits a été discutée, mais n'a pas été considérée dans la décision finale. Les 12 lits de l'unité de médecine-chirurgie ont été fermés pour l'été, en juin, et ne seront pas rouverts, peut-on lire dans le courriel de la chef d'équipe en communication du CISAT, René Labonne. Pour ce qui est de la perte d'emploi, il n'y en aurait aucune, malgré la réorganisation des soins. Les fermetures des lits entraîneront des modifications au niveau de la structure des postes des unités concernées, mais le personnel touché ne perdra pas d'emploi. En fonction de leur ancienneté, les employés se voient offrir des possibilités de poste, plusieurs postes étant disponibles, ce qui évite le recours à la main-d'œuvre indépendante, a répondu le CISAT. En ce qui a trait au soutien à domicile, le CISAP tente d'optimiser les services déjà en place. Cette optimisation vise à offrir le bon service au bon client lorsqu'il en a besoin. Par exemple, nous travaillons sur la réorganisation des déplacements pour les employés qui œuvrent à domicile afin que ceux-ci passent moins de temps sur la route et plus de temps auprès des clients, a signalé Mme Labonne. En somme, vous comprenez bien, et j'ai fini de le lire cet article, que le syndicat et l'établissement ne s'entendent pas, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on transforme les patients en clients. Enfin, juste avant de se laisser, je vous donne une petite nouvelle rapide. Vous savez, c'est repérable sur handicap.fr. Contre la cécité des lunettes façon réalité virtuelle. Au Canada, la recherche technologique au service du handicap visuel fait deux grands pas. Les constructeurs du dispositif eSight, lancé en Europe le 21 juin 2017, souhaitent le prouver. Ce nouvel appareil, qui pèse environ 100 grammes, se porte devant les yeux, au-dessus des lunettes de vue. Il comporte une caméra d'une résolution de 21,5 mégapixels pour filmer l'environnement. Concrètement, ce qu'elle capture est retransmis directement sur deux écrans OLED, un devant chaque œil, afin de garantir une qualité d'image et une relance optimale, affirment ses concepteurs. Une technique similaire à celle des casques de réalité virtuelle, elle-même dérivée de celle des smartphones. Compenser les zones de la rétine en affichant les informations très près de l'œil au travers de lentilles qui donnent une illusion de distance, eSight compenserait les problèmes de myopie. En adaptant ensuite ce qu'ils affichent en fonction des zones de la rétine encore valides pour compenser celles qui ne voient plus, ils arriveraient, dans une certaine mesure, à redonner la vue. Cette technique baptisée « Bioptic Tilt » permet également à l'utilisateur de garder l'usage de sa vision périphérique, cruciale pour les personnes atteintes de basse vision. Ces concepteurs affirment par ailleurs que le dispositif est accessible aux personnes atteintes de nombreuses pathologies oculaires, dont la dégénérescence musculaire, l'albinisme oculaire et certaines formes de glaucome. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de détails supplémentaires que vous pouvez lire en repérant cet article sur handicap.fr. Mais il y a une belle histoire en toute fin d'article, très jolie. En fait, c'est Ludovic Lech qui est atteint d'une neuropathie optique héréditaire de Leber, qui désigne un dysfonctionnement du nerf optique, et qui a réussi grâce à eSight et ce procédé à l'âge, un peu plus tard dans sa vie, à lire pour la première fois les petits caractères. Alors, c'est une technologie, disons, qui nous donne un peu d'espoir pour bien lire les contrats, pour ne pas se faire avoir. Ah, bon, c'est particulier ce qu'on a vécu jusqu'ici à Montréal. Peut-être que vous avez vécu ça aussi hier. Il y a eu toutes sortes de grandes, presque tornades. Et donc, aujourd'hui, on se plonge avec notre chroniqueur Gérald Cousineau dans une œuvre pleine de dérives. Bonjour Gérald Cousineau.
Bonjour Benoît.
Très content d'avoir votre voix d'or avec nous.
Je suis muet.
Ah ben oui, voilà, vous attendiez pas à ce que je vous flatte d'emblée, mais c'est pas juste pour votre voix qu'on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un grand lecteur et un peu plus tôt, j'ai presque annoncé le titre, vous avez lu ou entendu pour nous le premier roman de l'auteur Jonathan Gaudet, La dérive des jours. Qu'en est-il?
Si j'ai choisi ce livre, c'est d'abord parce que nous sommes l'été et que l'été, va vivre ses dernières semaines, malheureusement. J'adore l'été. Hein.
Donc, nous tous.
J'ai pris Jonathan Gaudet parce que son premier roman, c'est son premier livre, La dérive des jours, paru en 2013. Ce n'est pas un livre récent, mais à mon avis, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. C'est un livre assez costaud quand même, 350 pages. Il fait, pour ceux qui vont l'écouter, c'est 8h30. Je l'ai pris au SQLA, je le dis tout de suite. Donc, premier roman de ce monsieur qui, en 2013, était professeur de langue, chanteur et musicien. Il est né en 77, donc il aurait 40 ans cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dérive des jours? D'abord, nous sommes dans une ferme de la région de la baie des Chaleurs. C'est la seule précision géographique qu'on aura dans le livre.
Oui, parce que tout au long du récit, on est presque dans un huis clos, là.
Voilà. Ouais. Et pour ce qui est du temps, c'est un des personnages qui signale qu'il y a eu auparavant un déluge au Saguenay. Donc, nous serions après juillet 1996. Donc, nous sommes dans une ferme de près de la baie des Chaleurs. Il y a le père, Gérard, la mère, Réjeanne, le fils, un préadolescent qui s'appelle Samuel, et une adolescente qui s'appelle Faustine. Alors, ils sont en train de faire les foins. C'est une journée torride du mois d'août. Et là, j'insiste parce que la chaleur est omniprésente dans ce roman. La chaleur et le soleil. Donc, c'est une journée très chaude du mois d'août. La famille fait les foins et là, subitement, le tracteur s'enlise. Pourquoi? Ben, l'eau monte. Il y a une crue subite. Ben, l'eau va monter, au point que les personnages vont devoir quitter le tracteur, quitter les balles de foin pour se réfugier dans un arbre. Il y a là, tout près, un énorme érable centenaire. Alors, ils vont grimper sur les branches de l'érable parce que l'eau, Benoît, incroyable mais vrai, va atteindre la hauteur de 4 mètres. Alors, évidemment, les champs sont tout à fait submergés. Ouais. Le tracteur disparaît carrément dans l'eau. Alors, et la famille, bien sûr, n'a rien à boire, rien à manger. Eh bien, le défi de Gaudet, ça a été de faire vivre cette famille-là 96 heures sur les branches de cet érable. Et donc, c'est un pari incroyable.
C'est incroyable. 96 heures de huis clos sur 348 pages ou 8 heures et demie, tout dépendant de comment vous l'entendez ou lisez. Est-ce qu'il arrive à proposer un récit qui ne s'essouffle pas?
Eh bien, à mon avis, le pari est gagné. Parce qu'au tout début, on se demande, bon, encore un roman sur l'agriculture, sur le métier de cultivateur, tout ça.
Ça n'idéalise pas la période du terroir, là, on n'est pas là.
Pas du tout. Et là, le roman, bien sûr, dès que la crue se manifeste, là, on passe tout à fait à autre chose. C'est une sorte de, comme l'a dit un critique, un huis clos arboricole. Parce qu'effectivement, tout se passe dans l'érable centenaire. Il n'y a plus de solitude, ils sont quatre. À un moment donné, il y a un étranger qui va se pointer, accroché à un tronc d'arbre, mais il va sortir du récit. Je ne dirai pas comment, il va sortir assez vite du récit.
Mais... merci beaucoup de ne pas te le dire, oui. Mais donc, effectivement, c'est quand même entre ces quatre personnages-là qui sont assez forts. On me dit par ailleurs qu'on emprunte un peu au réalisme magique à certains moments. Je ne sais pas si je dévoile des choses en disant ça.
Mais... ben, le simple fait de s'être cru, bien sûr, parce que jamais dans le livre, on ne nous dit pourquoi l'eau monte de cette façon. Donc, le mystère demeure.
Ah, c'est plus un mystère.
Oui, c'est un mystère parce que l'eau va finalement baisser après 4 jours, mais on ne saura jamais ce qui a causé cette crue soudaine, subite. Jamais. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Donc, on est dans le mystère et la tension croît, évidemment, parce que... Et là, l'auteur, Gaudet, a des passages très beaux sur... la fatigue. Imaginez, Benoît, que vous êtes assis sur une branche pendant 4 jours. Ouais. Vous dormez très mal. Si vous dormez, vous pouvez tomber à l'eau, tout bêtement. Donc, vous êtes tendu pendant 4 jours. Et là, il y a des très beaux passages. Il décrit la fatigue physique. On dirait un médecin, carrément. Là.
Ah oui.
Il décrit la soif. Ben, vous avez soif pour les personnages. Et c'est ça que j'aime aussi dans le livre, c'est que cette chaleur... c'est très bien rendu. On a soif, on entend les maringouins qui gigotent autour d'eux parce que le soir, c'est terrible, les maringouins sortent. Et il y a même l'eau dans laquelle il baigne cet érable devient salée. Mm. Et là, incroyable, des requins se pointent.
On dit, ah oui,
là, on est vraiment là, on sait plus trop où on est.
Hollywood ou dans Jaws,
ben oui,
peut-être.
On est pourtant près de la baie des Chaleurs et pourtant, on dit, mais comment ces requins-là ont fait pour venir jusqu'ici? Et ils sont là et ils s'attaquent à quoi? À des cadavres de vaches, évidemment, noyées. Mm. Donc, tout ça pourrait nous faire penser, mais mon Dieu, on est dans quoi, la magie? Non, parce que c'est un livre qui est à la fois un roman d'anticipation, science-fiction, si vous voulez, mais en même temps, hyper réaliste, parce que la ferme est décrite, les appareils sont décrits de façon maniaque. Et d'ailleurs, il y a de belles pages sur la campagne québécoise, mais en même temps, il y a une sorte de volonté écologique dans ce texte-là.
En plus, l'auteur, mais faut dire quand même que l'auteur est d'une génération qui n'est quand même pas celle de Paul Angrignon. La sensibilité environnementale,
oui, il avait 36 ans à l'époque quand il a publié ça. Donc, ça se sent. Ouais. Et je dirais que malgré la catastrophe qu'il nous raconte, c'est quand même beau. C'est quand même beau parce que la campagne est rendue de très belle façon. On a vraiment envie d'aller faire un tour dans ce coin-là. Mm. Ben, bien sûr, on n'aimerait pas vivre une catastrophe pareille, mais la campagne est bien rendue. Et l'été, parce que pour moi, l'été, c'est le personnage principal, finalement, de ce livre. L'été est magnifiquement traduit. Et moi, ça tombe bien, j'adore l'été. Alors.
Ben, ça nous donne tous envie de l'été, mais je dois vous avouer, vous disiez que ça nous donnait envie d'en savoir un peu plus. C'est vous, en racontant ce livre, qui vous me donnez le plus envie d'aller l'entendre ou le lire. Je veux rappeler aussi que Jonathan Gaudet a surpris en 2013 en publiant ça, mais il a publié aussi un autre roman, plus noir, semble-t-il. Et juste avant, c'est étonnant quand même, en 30 secondes, cet homme-là a d'abord fait du voyage, enseigné le français, oui. Et puis il y avait un livre Ulysse à son actif. Pourquoi il verse comme ça, sans jeu de mots, à 40 ans dans le roman?
En fait, il a écrit ça à 36 ans, et au moment où il a publié ce livre, il était à Prague.
Voilà.
Bon, est-ce qu'il y est toujours? Parce qu'il est professeur de langue, chanteur, musicien. Je présume qu'il fait encore tout ça. Mais pourquoi ce roman-là? Parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Hein? J'ai pas beaucoup d'exemples en tête de ce genre de livre écrit au Québec où une catastrophe vient gâcher la vie. Mmh. Et plus que ça, parce qu'il y a quand même des personnages qui ne vont pas survivre.
Okay.
Mais je ne dis pas lesquels.
On vous arrête maintenant. Mais soit tu t'en passes, j'aurais adoré que vous lisiez vous-même
oui,
ce livre.
Oui, j'aurais bien aimé, oui.
Peut-être que, enfin, vous l'avez raconté si sublimement, Gérald Cousineau. Merci beaucoup d'avoir fait connaître ce roman qui s'intitule, je le rappelle, La dérive des jours, voilà. Jonathan Gaudet. C'est chez Héliotrope déjà, parce qu'il y a deux éditions.
J'ai oublié l'éditeur, c'est vrai, mais pour les gens qui vont recourir au livre sonore, on peut le trouver au SQLA.
Voilà, c'est dit. À bientôt donc.
Merci.
À la claire fontaine, m'en allant promener, je l'ai trouvé à sec, mais pas pu m'y baigner. Posé le genou par terre, je suis mis à pleurer. Posé le genou par terre, me suis mis à pleurer, et d'une de mes larmes, il sort. Le rossignol sauvage est venu s'y percher. Belle demoiselle, dites vite, dites quand embarquerez-vous dans ma barque, riez-vous dans mon camp, dites quand. Belle demoiselle, dites vite, dites quand, car il est temps plus que temps de choisir son camp. Sauvage, il s'est mis à chanter. L'eau de la claire fontaine était si convoitée. On l'a vendu aux plus riches dans de lointaines contrées. J'ai fait les choses changer. Une rose entre les dents, les manches relevées. Belle demoiselle, dites vite, dites quand embarquerez-vous dans ma barquerie-vous dans mon camp, dites quand. Belle demoiselle, dites vite, dites quand, car il est temps, plus que temps de choisir son cœur.
Belle embarquée de mes aïeux, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça personnellement, mais c'est heureux, on vient de parler de la terre, puis le renouvellement des traditions, c'est toujours bien fait avec mes aïeux. Bon, ceci dit, je veux juste vous annoncer que notre ami M. Cousineau est toujours avec nous en studio, alors n'hésitez pas à intervenir si ça vous tente.
D'accord.
M. Cousineau a fait longtemps la défense de droit, et ça tombe bien, puisqu'on a avec nous Bertrand Nadeau, président du conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie, l'APHVE. Bonjour M. Nadeau.
Bonjour, bon midi, Benoît.
Ben bonjour, bon midi aussi. Vous connaissez sûrement M. Cousineau?
Pas vraiment, honnêtement.
Bon, ben vous faites connaissance à l'instant. Bon, voilà.
D'accord.
Donc, je vous interpellerai d'abord en vous rappelant que, en rappelant plutôt aux gens que vous vivez la même réalité des gens que vous défendez, c'est-à-dire que vous avez une déficience visuelle, et je vous poserai la question d'emblée, pourquoi personnellement vous avez décidé de rejoindre l'APHVE?
Premièrement, c'est une question de un peu vivre en contact avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Mm-hmm. Quand j'ai eu le diagnostic, moi, de rétinite pigmentaire et qu'on m'a dit que je perdrais la vue en quelques années, ça a été bien sûr un choc. Et là, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu pouvoir continuer à travailler? La famille, les paiements, ouais, financièrement, puis tout ça.
Beaucoup d'insécurité, hein?
Pardon?
Beaucoup d'insécurité à ce moment-là.
Beaucoup d'insécurité. Ouais. Et de joindre un organisme, l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie, ça m'a permis d'être en contact avec des gens qui vivent la même chose que moi, qui sont passés par là, mm-hmm, qui dans certains cas sont plus avancés, dans d'autres cas moins avancés. Et ça a permis de rencontrer ces gens-là et ça nous apporte une certaine sécurité.
Oui, bon, bien. Et Bertrand Nadeau, pardon, dites-nous donc, quelle est cette mission de l'APHVE?
La mission première de l'APHVE, c'est la défense des droits des personnes handicapées visuelles, tout déficit confondu, toute déficience confondue. Mm-hmm. On a des personnes qui sont en basse vision, on en a d'autres qui sont complètement aveugles, on en a d'autres qui viennent d'apprendre qu'ils ont la maladie, une maladie dégénérative souvent. Et la mission première, c'est la défense des droits, l'accessibilité, favoriser l'intégration sociale, scolaire, professionnelle de ces personnes-là, faire de la représentation auprès des différentes instances gouvernementales, municipales, pour avoir, par exemple, des feux sonores dans les municipalités.
Ah, puis ça, c'est pas facile, hein? Moi, j'ai remarqué, là, entre autres, dans le plan d'action de Montréal, il y en avait 2000 de prévus. Il n'y en a pas beaucoup d'installés. Je ne sais pas si en Estrie, ça va mieux pour vous.
Nous, à Sherbrooke, c'est sûr que ce n'est pas une grande ville comme Montréal. On en a 15 actuellement. Je dois dire, cependant, qu'on a une bonne collaboration de la ville de Sherbrooke.
Ah, bon,
lorsqu'on fait des demandes, on justifie, évidemment, parce qu'il y a des intersections plus stratégiques que d'autres ou des personnes handicapées visuelles vivre dans ces secteurs-là. Et actuellement, avec le Centre de réadaptation d'Estrie et la ville de Sherbrooke, je dois dire qu'à ce niveau-là, on a une bonne collaboration.
Bien.
Maintenant, dans nos chevals de bataille, dont on a aussi, c'est de la vidéodescription, entre autres, à la mm-hmm télévision, les terminaux de paiement tactiles.
Okay. Hein,
ça, pour nous, les non-voyants, là, quand il n'y a pas de bouton en relief comme il y avait avant, que c'est un écran tactile, ça, c'est mortel pour nous.
Oui.
Les files d'attente électroniques, où on affiche le numéro qu'on sert, mais nous, on ne le voit pas, le numéro. Fait que ça, c'est toutes des choses là, sur lesquelles on s'attaque là,
ben oui,
pour essayer de faire bouger les choses.
Pour faire comprendre aux gens, c'est ce qui se passe souvent, c'est que la contrepartie de ne pas avoir ces terminaux-là, c'est de donner sa carte et son numéro,
exact,
de NIP, ce qui est complètement aberrant.
Exact. En, ouais, dernier recours, si on n'est pas accompagné, c'est ce qu'il faut faire.
Mm-hmm.
Il faut faire confiance à la personne, mais on ne demande pas que tous les terminaux soient avec des boutons à l'ancienne, mais par exemple, des chaînes où il y a plusieurs caisses pourraient avoir une caisse, par exemple, qui garderait un terminal avec des boutons comme on peut se servir, nous, mm-hmm, autres, les personnes non-voyantes. Il y aurait certainement un compromis à faire.
Bien, écoutez, on compte sur vous pour bien négocier avec les acteurs en place. Je vois notre ami réagir. Vous vivez ça souvent
non,
avec les terminaux?
Je pensais, entre autres, quand il disait que par exemple, quand on va dans un CLSC pour une prise de sang, ben, les numéros sont affichés,
c'est
mais
bien,
ce n'est pas sonore.
Non.
Donc, si on n'est pas accompagné, il faut demander à la personne à côté, on est rendu à quel numéro. Bon, c'est un,
exactement,
petit détail, mais pour nous, c'est quand même une petite chose plate là, à vivre.
Bon.
C'est sûr qu'il y a des choses pires que ça dans la vie,
oui,
mais c'est parmi les petits irritants qu'on aimerait bien essayer de corriger.
Mais vous avez quand même nommé plusieurs dossiers là, que vous défendez. Vous faites de la défense collective des droits. Comment vous arrivez à faire ça? Parce qu'on comprend les problèmes. Là. Comment vous y arrivez, vous, et je rappelle que vous êtes de l'APHVE en Estrie?
Exact. Ben, ce qu'on fait, on fait beaucoup de représentations au niveau de différents organismes, des organismes communautaires de la région auprès de la ville de Sherbrooke. On fait de la sensibilisation. On a commencé ça il y a quelques années. On fait de la sensibilisation dans les écoles. Mm-hmm. On a offert aux écoles de la commission scolaire de Sherbrooke de leur confier une personne non-voyante durant une période de cours et de rencontrer les élèves. Et on se dit, c'est des adultes de demain, ces gens-là. Fait que si on les sensibilise maintenant, aux personnes handicapées visuelles, ben après ça, plus tard, ces gens-là vont être peut-être plus compréhensifs pour offrir des emplois, comme pour travailler avec des collègues de travail non-voyants. Fait que c'est ça qu'on fait. On a un journal aussi qui est produit auprès de nos membres. On produit 4 fois par année un journal qui donne plein d'informations. Mm-hmm. Souvent en regard à la vision, aux nouveautés, aux découvertes qui se font, aux opérations, puis tout ça.
Très important aussi de le spécifier en papier, en gros caractères et sur le web pour que tout le monde puisse y avoir accès.
Sur le web et aussi en CD audio pour les personnes qui ont des appareils pour le lire en audio. Et par courriel, les membres qui sont branchés peuvent le recevoir par courriel en format PDF ou en format Word. Mais il est aussi disponible sur notre site Internet, comme vous le mentionnez.
Il y a bientôt 2 choses qui adviennent. J'avais envie de vous parler de la canne blanche, mais comme le 5 novembre prochain, on s'en va en élection à travers le Québec pour élire nos élus locaux, nos élus municipaux. Est-ce que vous avez une revendication importante en Estrie auprès de la municipalité de Sherbrooke?
Bien, on est toujours sur les dossiers d'accessibilité, mais comme je vous dis, on a une bonne collaboration avec la ville de Sherbrooke. Où on aimerait s'attaquer plus, là, c'est les institutions scolaires. Ça touche pas tout à fait, comme vous dites, les élections, là. Mais par exemple...
Mais ça dépend, il y a les élections scolaires quand même qui se tiennent en même temps.
Oui, exact. Mais par exemple, à l'Université de Sherbrooke, on a ce qu'on appelle l'Université du troisième âge. On a plusieurs membres qui vont à ces cours-là, et les locaux ne sont pas identifiés en braille.
Ah, voilà.
Et parfois, un même cours se donne telle journée, c'est à tel local. La semaine d'après, c'est à un autre local. Et il faut se fier vraiment là, aux personnes qui nous entourent, personnes qui traînent dans les corridors.
C'est toujours un peu ça. Donc, vous êtes là pour défendre les droits de tous, mais surtout que l'autonomie soit possible. On se rend où pour avoir plus d'informations?
Bon, sur le site Internet, à aphve.com. Sinon, par téléphone, le 819-566-4848.
Donc, parfait. Ça va nous faire plaisir de remettre ça sur notre page canalmvusezvoix.com. Merci beaucoup, M. Nadeau, président du conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie.
Ben, je vous remercie là, du temps que vous avez consacré là, à la cause.
C'est un plaisir. Continuez de défendre les droits pour nous tous et toutes.
Parfait. Merci, Benoît.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Canal M, on aime l'été. Et on continue sur l'air estival pour sentir le pouls de la ville de Québec avec notre collègue Michel Bédard qui est chroniqueur, ou plutôt qui est animateur de l'émission Les Capés sur CKIA à Québec, je le rappelle. Bonjour Michel.
Salut Benoît.
Ça va bien?
Très bien toi?
Oui, très très bien. Alors, on est en compagnie aussi de Gérald Cousineau, qui est souvent qu'on peut entendre à plusieurs livres produits ici. Donc, je vous fais rencontrer maintenant.
Bonjour monsieur, j'ai travaillé à Québec dans une radio communautaire il y a très longtemps. CKRL, elle existe encore.
Tout à fait.
Ah bon, ben voilà. Alors, on est en pays de connaissance de part et d'autre. Il est peut-être un peu tôt pour l'apéro, mais il semble que vous nous en donnez déjà le goût, Michel.
Effectivement. Donc, du 31 août au 3 septembre prochain, aura lieu Bordeaux fête le vin à Québec. Ça sera à la place Cap-Centième, tout près du Vieux-Port de Québec. Plein de belles choses lors de cet événement. Il y aura, par exemple, des classes de maîtres, également des ateliers de dégustation, des pavillons, des épicuriens. Je sens que ça attire votre palais, mon cher Benoît.
Oui, ben, je dois avouer que je suis au bord d'en ouvrir un, Bordeaux, mais juste pour savoir, tout ça est accessible, évidemment.
Évidemment. Tout ce dont je parle, c'est des choses qui sont pleinement accessibles.
Beaucoup trop parfois. Mais ceci dit, même si c'est notre société d'État préférée, il faut quand même rappeler que c'est pour une période, hein? C'est pas pour la vie, malheureusement.
Non, effectivement, comme je disais, donc c'est du 31 août au 3 septembre, de midi à 23h, mais le 3 septembre, ça se terminera à 20h.
Parfait.
Comme je disais, il y a également des conférences qui vont avoir lieu, des soirées Bordeaux Guilty. Bien curieux de voir c'est quoi ça.
Oui.
Soirée Bordeaux Grill Cheese. Donc, je mélange vin et grilled cheese un peu fancy de ce que j'ai pu voir sur le site internet de l'événement.
Mais
il
vive la musique en plus, mais j'imagine que c'est quand même assez heureux de marier un fromage puis un petit Bordeaux. Hein? Ça doit être ça qui se passe. Bon, on peut être dans le port de Québec, mais on peut aller pas très loin sur la rue Dalhousie pour aller visiter le bédéiste Hergé, c'est ça?
Effectivement. Tout juste avant, je vais juste terminer sur Bordeaux Fête le Vin.
Ah, je suis désolé.
Vous pouvez avoir accès à un laissez-passer qui se détaille à 40$, qui est disponible sur le site web de la fête, qui est l'adresse internet est le pfvq.ca. Vous aurez tous les détails de cet événement à cette adresse. Et j'imagine que ce sera mis également sur vos réseaux sociaux et vos sites web.
Ben c'est sûr et certain que ça va être sur notre page. En tout cas, moi, je vais m'en assurer personnellement.
D'accord. Allons-y maintenant avec le Musée de la civilisation,
oui,
qui nous offre depuis quelques mois déjà une exposition consacrée à Hergé. Après avoir fait une escale à Paris, Genève et Londres, le Musée Hergé pose ses valises à Québec au Musée de la civilisation, des bagages aux allures de coffres au trésor remplis de bijoux graphiques sous la bannière de la ligne claire d'un artiste qui a marqué le monde du 9e art, c'est-à-dire Hergé.
Mm-hmm.
Donc, ça semble très, très intéressant. Également, si vous êtes amateur de bandes dessinées, principalement de Tintin. Et une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que le musée de la civilisation ont une politique sur l'accessibilité universelle.
Mm-hmm.
Et dans cette politique-là, il y a la gratuité qui est offerte aux gens à mobilité réduite ainsi qu'à un accompagnateur. Donc,
ah,
pour aller voir Hergé, ça coûte gratis.
Et là, c'est rare, c'est gratuité. Il faut en profiter. Quand on parle de trésors, est-ce qu'on revisite seulement les BD ou il y a d'autres objets intéressants de l'univers de Hergé, savez-vous?
Ben, en fait, je ne suis pas encore allé voir l'exposition, mm-hmm, mais j'imagine que oui. En allant sur le site du Musée de la civilisation au mcq.org, vous aurez tous les détails à ce niveau-là. Et comme on disait précédemment, le musée est complètement accessible. Des toilettes, il y a plein de services offerts aux personnes à mobilité réduite, que ce soit en fauteuil roulant ou les gens qui ont un problème de vision également. C'est des beaux services qui sont offerts à ce niveau-là.
Ben, c'est heureux de se sentir bienvenu. Et ça tombe bien parce qu'on peut se rafraîchir pas très loin. Hein? Ça, c'est la chute de ce segment d'émission. Vous avez envie de nous inviter à aller à la chute Kabir Koubar. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, ça, c'est complètement différent. C'est un endroit dans la nature où ils offrent, entre autres, des tracés, des périples pour les gens accessibles avec
à mobilité réduite.
Ouais. On parle de géologie, de fossiles,
ah oui,
de flore, de faune. Il y a plein d'activités également pour les enfants, la famille. Et ils offrent des visites qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et aussi avec un handicap intellectuel. Donc, c'est vraiment adapté à tout type de clientèle.
Hey, j'ai une bonne question pour vous. Est-ce qu'il y a des accompagnateurs prévus pour les personnes aveugles? Saviez-vous?
Oh!
Ah, c'est une bonne question.
Question.
On devrait leur poser cette question-là.
Oui, effectivement, ça serait une bonne question à leur poser.
On invite nos auditeurs à le faire.
Oui, c'est qu'ils seront de passage. Et ça, c'est ouvert tout l'été dans le secteur de Loretteville. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant également. Oui. Et rapidement, je peux donner le site web. C'est le www.chutekabirkouba.com. Donc, vous aurez tous les détails afin de pouvoir faire une visite agréable lors de votre passage à Québec.
Ça va être vraiment un bonheur d'y aller. Merci pour ces trois propositions. Donc, rappelez-les rapidement. On a 20 RG et chute, à peu près.
D'accord. Donc, RV, Bordeaux fête le 20, 31 août, 3 septembre, de midi à 23h, sauf le 3 septembre où ça se termine à 20h. bfvq.ca, le site web. RG, ça se termine le 22 octobre. On a encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour visiter l'exposition sur RG. Et vous pouvez avoir des informations au mcq.org. Et l'autre truc, la chute Kabir Kouba. Et tous les détails sont disponibles au www.chutekabirkouba.com.
Merci beaucoup, Michel Bédard. On peut vous entendre sur CKIA à l'émission Les Capés chaque semaine. Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt. Bye-bye.
Bye-bye.
Complications due to things that I've left undone, that all my debts will be left unpaid. Feel like a cripple without a cane. I'm like a jack of all trades who's a master of none. My father, he's always looking on the bright side, saying things like, son, life just ain't that hard. He is the grand optimist. I am the world's poor pessimist. You give him burdensome times and he will escape unscarred. To be quite resilient, gain no strength from counting the beads on a rosary. And now the wound has begun to turn, another lesson that has gone unlearned. But this is not a cry for pity or for sympathy.
Avec nous, Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires et qui siège aussi au comité sur les soins de fin de vie.
Enfin, c'est la commission des soins
sur
de fin
la
de vie.
Commission, voilà. Vous l'avez souvent entendu à la radio avec nous. Souvent, il vient nous éclairer sur ses manières de faire les choses en ordre. Hein? Et dans le cas de l'aide médicale à mourir, c'est important de suivre les étapes. Alors, M. Lambert, je vous demanderai tout de go, l'aide médicale à mourir, en quoi ça consiste exactement?
Alors, c'est d'abord un soin. Alors, ça s'inscrit dans un continuum de soins et qui est accessible, destiné à une personne qui se trouve en fin de vie, qui est apte et majeure et qui en fait la demande pour elle-même, évidemment, parce que personne d'autre peut faire cette demande à sa place, pour mettre fin à des souffrances devenues intolérables.
Oui.
Alors, c'est ce qu'on peut qualifier donc d'aide médicale à mourir.
Et c'est quand même quelque chose d'ultime comme geste. On a vu que ce soin est très balisé. Rappelez-nous, disons, les conditions que le demandeur doit satisfaire. Là. Parce que vous évoquiez, il faut qu'il y ait une douleur ou des difficultés de santé.
En fait, c'est une alternative. Parce que si on parle de soins définitifs, la sédation palliative continue est également définitive.
Mm-hmm.
La seule différence, c'est que la sédation n'intervient pas dans le cours de la maladie. Donc, la maladie continue de se progresser, mm-hmm. mais le patient est inconscient. Alors que dans l'autre cas, on met fin abruptement aux souffrances en mettant fin à la vie.
Ouais.
Alors, donc ça, c'est la différence. Mais dans les deux cas, on est vraiment en présence d'un soin qui a une conséquence définitive. Hein? Mm-hmm. Il n'y a pas de revenu. Donc, quelles sont les conditions?
Voilà les conditions.
Alors, la personne doit faire la demande elle-même sur un formulaire prescrit par le ministre. Donc, c'est déjà là une première balise. Le formulaire doit être signé en présence d'un professionnel de la santé. Ensuite, la personne doit être détentrice d'une carte d'assurance maladie valide. Alors ça, c'est pour empêcher que des gens de l'extérieur viennent ici faire une espèce de mouroir touristique.
Mm-hmm.
Ensuite, la personne doit être majeure et apte. La loi précise ça parce que dans le Code civil, une personne de 14 ans peut seule consentir à des soins. Alors ici, on devient dans l'exception. La personne qui demande l'aide médicale à mourir doit être majeure et elle doit être en fin de vie. Donc, on évalue que sa vie est assez courte et que la mort est rapprochée. Également, qu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable.
Et donc, ça, c'est déterminant parce que certaines personnes peuvent... Parce que, bon, la fatigue, la motricité, etc.
La sclérose en plaques, et un cas où, évidemment, les gens voudraient avoir accès à l'aide médicale alors qu'ils sont pas en fin de vie. Alors, pour donner un exemple. Donc, il faut être vraiment en fin de vie. Avoir un pronostic vital que je dirais de moins de 6 mois.
Ah oui, donc c'est très... Faut tristement être vraiment considéré comme à la fin.
Évidemment, on parle de la loi québécoise, là, parce que si on regarde avec l'arrêt Carter et la loi fédérale, c'est différent un peu, mais on va s'en tenir à la loi provinciale.
Parce que ça s'applique sur le territoire du Québec, comme la santé, c'est de juridiction.
D'ailleurs, c'est que le Québec a pris de l'avance par rapport aux autres provinces qui sont toujours pas très organisées. Ils n'ont pas l'équivalent de la commission des soins de fin de vie, mais là, je vais continuer dans les conditions. Donc, la personne est marquée par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et elle éprouve évidemment des souffrances intolérables, des souffrances autant physiques que psychiques, une combinaison des deux.
Donc, ces conditions-là doivent tous être remplies pour pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Évidemment, vous avez mentionné que ça devait être attesté par un professionnel de la santé. C'est quoi les obligations que doit respecter le médecin qui administre ce soin-là, l'aide médicale à mourir?
Alors, donc, petite précision, le formulaire doit être signé en présence d'un professionnel de la santé. Ça peut être une infirmière, par exemple, ou un travailleur social. Mais l'administration, c'est du ressort exclusif du médecin. Donc, c'est
important
pourquoi
de le préciser,
qu'on parle des obligations du médecin. Alors, il doit d'abord s'assurer que la personne a satisfait à toutes les conditions qu'on vient de voir, là, les conditions de l'article 26, et notamment s'assurant que son consentement, sa demande est libre et éclairée, et que sa demande n'est pas le fruit, par exemple, de pression de l'entourage. pour faire rire les gens un peu, des fois, si tu es pressé d'avoir l'héritage.
Ouais.
Et en s'assurant de la persistance des souffrances et de sa volonté réitérée. Donc, il faut qu'au-delà de la première demande qui est faite par écrit sur le formulaire, la personne doit renouveler à plusieurs occasions sa demande. Son désir de recourir à l'aide médicale à mourir.
C'est comme ça qu'on peut attester, j'oserais dire, du sérieux de la demande ou de la profondeur de la volonté.
Oui. Alors, le médecin, donc, doit avoir, celui qui va l'administrer, l'aide médicale, doit avoir plusieurs rencontres avec la personne avant d'administrer l'aide médicale à mourir. Et également, le médecin doit s'assurer que la demande, que le patient a eu l'occasion de s'entretenir avec ses proches de cette demande. Il arrive dans certains cas où le patient ou la patiente ne veut pas.
C'est
une affaire qu'elle garde pas ou qu'elle garde pour lui-même.
Ça peut être
mais
quand
dans
même
la majorité des
cas,
les gens en parlent avec l'entourage. L'entourage n'est pas toujours d'accord, mais respecte le désir. Mais je dirais dans la plupart des cas, la famille proche comprend.
Mais cette étape-là, elle est là pour éviter qu'il y ait contestation de la demande d'aide médicale à mourir? Ou...
Non, mais comme il s'agit quand même d'un moment très intense au plan humain, il est indiqué que les proches puissent pouvoir avoir accès.
Donc,
que la personne puisse dire « oui, j'aimerais en parler avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes enfants ou avec mes amis proches.
» Oui, parce que c'est très humain.
C'est pour ça que la loi le met là pour qu'on n'oublie pas cet aspect-là. Mais ce n'est pas dans le but d'éviter une contestation, pas du tout.
Bon.
Alors maintenant, le médecin doit aussi obtenir l'avis d'un confrère, un second médecin, qui doit lui aussi faire le parcours avec le patient, la patiente, doit lui poser des questions et s'assurer également que la demande est libre et éclairée et qu'elle est constante, que les souffrances sont intolérables et qu'elles ne pourront pas, bien souvent avec la médecine, la pharmacologie que l'on a aujourd'hui, d'être soulagée d'une façon efficace.
Bien sûr.
Alors, une fois que ce second médecin a fait son travail, il dresse un constat et on arrive à une conclusion qui doit évidemment correspondre à celle du premier médecin, celui qui va administrer.
Alors, s'il y a une divergence, évidemment, on arrête. OK. Donc, aussitôt qu'il n'y a pas concordance entre les deux avis, ça stoppe le processus. Écoutez, il y a évidemment toute une... la loi est complète dans toutes ses dispositions. On pourrait parler aussi du lieu où elle doit être administrée. Est-ce que c'est obligatoirement l'hôpital qui doit voir cet
accès-là? L'aide médicale peut être administrée même à domicile.
Ah oui.
Mais ça doit être obligatoirement fait par un médecin. Alors, au Québec, c'est ça. Ailleurs, il arrive que les infirmières ou certaines infirmières peuvent le faire, mais ici, c'est obligatoirement un médecin. Et qui doit donc, après avoir satisfait à toutes les conditions, là, peu importe que vous soyez, par exemple, dans une maison de soins palliatifs qui permet, il y en a qui ne le permettent pas ou ne veulent pas voir ce soin administré dans leur institution, mais plusieurs...
Je suis désolé. En fait, c'est par précaution pour les autres personnes ou c'est
non,
pour des
c'est
raisons
souvent,
morales
c'est, je pense que c'est plus une question de politique philosophique que des dirigeants de la maison.
Ah oui.
Okay. Alors, certains
certains sont associés à des groupes davantage religieux. Est-ce que ça serait ça? Ou...
Bon, je ne sais pas si la religion, possiblement, ça peut être un des motifs, mais simplement, c'est que la loi permet à une maison de soins palliatifs, par exemple, de ne pas... Et elle doit toutefois en informer le patient qui demande à être hébergé à cet endroit. On lui dit, ici, chez nous, on n'administre pas l'aide médicale à mourir. Donc, si jamais vous le voulez, vous devrez quitter la maison et aller ailleurs.
J'ai une question difficile maintenant qu'on doit aborder. Évidemment, c'est un processus exigeant pour la personne, pour les gens autour. Après avoir demandé l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on peut... retirer notre demande.
En
et dans quelle disposition?
En tout temps, il n'y a aucune formalité. Ça se fait verbalement. Ça peut être même tout juste au moment où le médecin s'apprête à administrer. Il lui demande encore une dernière fois, est-ce que vous êtes toujours bien décidé? vous pouvez retirer votre demande. Et d'ailleurs, ce droit lui est expliqué au moment même de la signature du formulaire de demande. Mm-hmm. Alors, tout au long du processus, on lui rappelle également qu'il y a d'autres alternatives, entre autres la sédation palliative continue ou d'autres recours.
En fait, quand on dit de la sédation palliative continue, c'est-à-dire on pourrait administrer beaucoup de morphine ou la morphine pour contrôler la douleur, puis évidemment, ça a un impact
à long
terme. En fait,
je ne crois pas que ce soit de la morphine. C'est un autre médicament qui provoque un coma.
OK.
Alors, c'est vraiment pas juste
une forte dose
de morphine, mais c'est vraiment un processus, encore une fois, très balisé.
Écoutez, si vous me permettez, je sais que vous êtes d'abord et avant tout un juriste, donc vous vous basez sur l'avis de la loi, mais vous savez, plusieurs groupes, notamment Nodadiet, proposent que si on donnait les services psychologiques adéquats ou les soins ou le soutien adéquat, il n'y aurait peut-être pas autant de personnes qui se rendraient à cette étape ultime qui est l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que vous êtes quand même à la commission sur les soins de fin de vie. Quel serait votre avis là-dessus?
Bon, alors évidemment, vous l'avez dit, quel est mon avis? Donc, c'est très personnel, ce n'est pas celui de la commission. Mm-hmm. Alors, pour ce que j'ai vu, ce n'est pas une question d'avoir du soutien psychologique. C'est vraiment les gens estiment, parce que c'est dans le rapport que le médecin doit faire à la commission, il y a une vingtaine de questions qu'il doit répondre. Mm-hmm. Et entre autres, toutes ces questions-là, d'échange avec la personne, pourquoi, etc. Mm-hmm. Généralement, ce qui revient, c'est que les gens disent, au point où j'en suis rendu, je suis à quelques jours, à quelques mois de mon décès, il n'y a plus rien à gagner à étirer ça. Je suis rendu dans des souffrances que je ne suis plus capable de tolérer. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, mettons fin, puisque la fin est imminente.
Oui. Puis bon, je comprends aussi que vous ne pouvez pas nécessairement jauger de la prévention avant d'arriver là. C'est une question à la fois médicale ou peut-être plus de la défense de droit. Mais quand c'est intenable, il existe cette disposition-là. Et donc, si on souhaitait en savoir davantage ou avoir l'information complète, bien que ce soit très complet ce que vous avez présenté aujourd'hui, où on se réfère?
Alors, il y a le site du ministère de la Santé. Alors, c'est dommage, je ne m'attendais pas à la question que je vous aurais donnée. Peut-être la semaine prochaine, je vous donnerai la référence. Mais sur le site du ministère de la Santé,
ne vous en faites pas.
Il y a un site particulier, il y a un onglet qui vous dirige vers l'aide médicale à mourir. Et là, vous avez l'information.
Et je dois vous avouer qu'en googlant, c'est très français de le dire ainsi, aide médicale à mourir, on arrive à cette page-là. En tout cas, moi, j'ai réussi assez rapidement. Et évidemment, il faut s'assurer que c'est bien le site du ministère de la Santé et des Services sociaux sur lequel on se retrouve. Merci infiniment, Jean Lambert. Rappelons que vous êtes ex-président de la Chambre des notaires du Québec et aussi membre de la Commission sur les soins de fin de vie. Merci beaucoup.
Mon plaisir.
Ici. Merci de nous écouter. Je suis en train d'obliger les invités à demeurer dans le studio, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait l'émission. Mais j'avais envie quand même de vous annoncer une activité qui s'en vient. En fait, il y en a deux. Le comité de sensibilisation du RAM a besoin de vous. Donc, l'équipe du RAM, vous la connaissez bien. Il s'agit du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Organise une action dans le cadre de la semaine de la canne blanche en 2018. Oui, je sais, c'est loin, mais il faut commencer tout de suite à s'engager si on veut en donner un coup de roue ou un coup de main ou un coup de canne, comme vous le souhaitez. Alors, si vous voulez faire partie des gens qui vont sensibiliser à la réalité des personnes non-voyantes pendant la semaine de la canne blanche, vous contactez Christine Letendre par courriel au cletendre@rammm.org ou par téléphone au 514-277-4401, poste 107. J'en fais une autre, juste avant qu'on se quitte. Execo aussi vous invite à une grande journée de réflexion sur la santé et les services sociaux. Vous le savez, il y a eu de nombreux changements en santé depuis 2012. La réforme imposée par le ministre Barrette a particulièrement bouleversé le système public et Execo vous invite à ajouter votre voix ou enfin votre signe, si vous préférez, enfin peu importe comment vous vous exprimez, pour développer une nouvelle plateforme de revendication dans le but de faire entendre les besoins des personnes en situation de handicap ou même, en fait, toute forme de situation de handicap. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur execo.net ou rejoignez Simon-Philippe Caron au 514-288-3852. Voilà. Merci de nous écouter sur le câble à travers le Canada ou encore en repérant canalm.vusezvoix.com. Vous savez d'ailleurs que toute l'information sur les gens qui sont venus à l'émission, et il y a en face de moi deux personnes magnifiques, vous pouvez retrouver leurs coordonnées ainsi que les références dont ils nous ont parlé. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna et Sylvie Rivard qui aident à faire de cette émission une émission magnifique. Je vous rappelle que moi, je vous reviens sur Accès Libre dès le 12 septembre prochain, mais demain, Kevin Breton sera là avec vous parce que, ben oui, on aime l'été à Canal M.